Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino.
Alors, on vous souhaite un beau réveil, plein de bonnes choses. Aujourd'hui, il va faire beau, donc il faut en profiter.
Ero tentato ma no, e va bene lo so, ma com'è bella la vita e la tua faccia alle sei di mattina.
Ma tu non piangere, non si.
Aligre FM presenta Cappuccino.
Il presentatore del 9.30 è Michele Gotti con i suoi invitati.
Allora Michelino, come va?
Bene.
Mi fa piacere.
Je sais pas si c'est moi qui prends du volume ou si c'est le studio qui rétrécit, mais on a l'impression qu'il nous manque un peu quelque chose.
Mais ce matin, il est assez plein. C'est ça l'histoire.
Voilà, on salue Mario Vecchione et Kit, venu nous voir dans les nouveaux studios d'Aligre. On le remercie. Et puis, ciao a tutti, vicino e lontano. Aujourd'hui, je vous propose dans Cappuccino d'y voir un peu plus clair dans le grand bordel de la politique française. Je me permets de dire ce mot-là. Avec un spécialiste de la politique italienne, oui, ça va marcher, Alberto Toscano, notre correspondant permanent et journaliste de Cappuccino. Mais en attendant, nos infos quotidiens et de culture et d'association, laissons place à l'accent micidial et de la canadienne et notre ami Cathy Fuoco qui nous propose aujourd'hui la rubrique « Rien ne se perd ».
Bonjour, mon nom est Cathy Fuoco, si Fuoco, l'italienne del Canada. Vous écoutez Cappuccino sur Aligre. Ciao!
Bienvenue dans la Minute à l'italienne. Laissez-moi vous amener dans un voyage à travers les époques où les coutumes et les habitudes sont transmises de génération en génération et font partie du quotidien comme un espresso,
un biscotto ou une pasta carbonara, un panino
ou bien un tiramisu. Une excursion rapide dans la culture italienne où j'explique avec humour et bienveillance les raisons derrière certaines de nos coutumes et habitudes très particulières. Aujourd'hui, dans la Minute à l'italienne, on rend hommage à un grand philosophe, chimiste, biologiste français, Antoine Laurent de Lavoisier.
Il avait sûrement un peu d'italien en lui.
Est-ce que ça serait pas parent avec la carpoussière? Parce que chez les Italiens, on prend Lavoisier au pied de la lettre.
Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais chez nous, tout se transforme encore plus. Dans ma famille, tout a une deuxième vie. Un vieux rideau devient une nappe pour la cantina. La fameuse boîte à biscuits ronde en métal bleu devenait la boîte à couture nationale. Un pot de margarine, toujours rempli de soupe ou de sauce. Et dans le jardin,
mais dans le giardino,
là où l'imagination fleurit autant que les fleurs de zucchini, les grosses cannes d'huile d'olive, des arrosoirs de fortune percés au tournevis, les vieilles camisoles trouées de mon Dio Pepe, elles devenaient des liens pour attacher les plantes de tomates. Nos vieilles espadrilles, les souliers pour aller cueillir les tomates dans le jardin. C'est pas seulement pratique, c'est une manière de voir le monde. Chez les Italiens, on a une utilité, une histoire pour tout. On leur donne une deuxième chance. Un bout de pain, un demi-oignon et un restant de parmigiano reggiano. Vediamo un po', qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec ça? Ajoutez un peu d'huile, beaucoup d'amour et on crée des repas de roi. Même les miettes servent éventuellement à paner quelque chose. Alors oui, monsieur Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme. Mais vous avez oublié de dire que chez nous, tout finit par servir de la cuisine au jardin. Même une camisole fait son chemin. C'était Cathy Fuoco. On se retrouve bientôt pour une autre Minute à l'italienne. Ciao! À la prossima!
Bon réveil à tous, hein, plein de bonnes choses. Et puis, on commence à aller avec un hommage à une grande dame qui vient de nous quitter. Personnellement, je ne la connaissais pas, mais c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour les jeunes. Sofia Corradi, la créatrice du programme Erasmus. Et oui, c'était une Italienne. Elle est décédée à Rome hier à l'âge de 91 ans et on la surnommait Mamma Erasmus. Et son programme avait commencé en 1987 et grâce à ces programmes, 16 millions d'étudiants ont pu aller étudier hors de leur pays. Donc merci, Signora Corradi. Donc voilà, c'est vrai que c'était une dame, on n'entendait pas beaucoup parler, mais il y a des gens comme ça qui œuvrent pour la jeunesse et c'est très bien. Alors quelques informations d'association. Le corps de chant Valcuriasca qui s'est produit à Montreuil hier et avant-hier, se produit une dernière fois ce soir à 17h30 à la Mission catholique italienne au 46 rue de Montreuil, dans le 11e métro Reuilly-Diderot ou Boulay-Montreuil, entrée gratuite. Et on rappelle que l'Association italienne in Europe organise un super voyage en Albanie du 17 au 22 mai. Si vous êtes intéressé, c'est sûr, il y a une bonne ambiance en plus. À chaque fois, on se marre. Mario, il faut y aller là-bas, en Albanie. Tu as déjà été en Albanie? Non, ecco, à visto. Alors, pour tout renseignement, vous téléphonez à Marie-Rose 06 89 10 67 53. Et puis, également, à notre amie Cantaline. Et puis aussi, également, l'Institut italien Paris organise ce jeudi à 18h30. L'avant-première de Performissima, un festival international des arts et du spectacle, réservation obligatoire. On rappelle que l'Institut se trouve au 50 rue de Varennes dans le 7e. Allez, musica avec le nouveau CD de Angelina Mango. Et déjà sur les ondes de Top Italia et de Capucci avec un extrait comme un bambino.
Di me siamo stati una storia d'amore. Ti ricordi di me? Siamo stati più belli di tutti quanti. E il tuo viso è una casa in cui si nasce e poi si muore. Che si fida della vita, del suo corso, delle cose, perché invecchiare è solo un modo per non sentire più rumore. In che modo mi manchi stasera, col sorriso stampato in faccia, col silenzio in gola. In che modo mi manchi stasera, come un bambino che non vuole, non vuole più andare a dormire, non vuole più andare a dormire senza di te. Mi ricordo di te, che venivi da un altro pianeta, più in alto della terra, che non mi bastava mai. Ero certo che ci fosse qualcosa di più grande dentro di te. E a mio modo ti amo stasera, col sorriso stampato in faccia, col silenzio in gola. A mio modo ti amo stasera. E magari ti manco stasera, come un bambino che non vuole, non vuole più andare a te.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Alors, le cinéma avec Alain Mengual, avec plein d'informations, et c'est tant mieux, sur le cinéma vert, blanc, rouge.
Cinéma vert, blanc, rouge, et aussi un petit peu de littérature et de revues italiennes. Donc, le grand film à voir en ce moment au cinéma, c'est Berlinguer, la grande ambition de Andrea Segre, avec Elio Germano, qui raconte le parcours de ce secrétaire général du PC italien qui a essayé un petit peu d'adoucir le régime soviétique, qui s'est rendu à Moscou, et puis qui aussi est à l'origine du compromis avec la DC, avec la démocratie chrétienne, qui lui a pas réussi, puisque même c'est l'époque où Aldo Moro était enlevé par les Brigades Rouges et assassiné, etc. Donc c'est une très belle interprétation de Elio Germano, qu'on avait vu autrefois dans Le Leopardi, par exemple, et dans plein d'autres films. Autre chose, le cinéma Les Cinq Comartins, qui se trouve près de Saint-Lazare, présente une fois par mois un ciné-club italien. C'est la directrice qui s'appelle Francesca Pesce.
Copieur.
Francesca Pesce.
Nous, on a Ashley Cappuccino tous les deuxièmes vendredis du mois.
Il doit être un peu payant. Mais donc, là, le prochain, ce sera donc le 16 novembre. Et en hommage à la fois à Claudia Cardinale et puis à Marcello Mastroianni, dans un rôle complètement à double emploi, puisque c'est Il Bel Antonio. Il Bel Antonio, c'est le Sicilien qui revient et qui se marie avec la belle Claudia Cardinale. Mais avec elle, ça ne marche pas. Donc, le Latin Lover, c'est pas très bon pour lui. Voilà. Tous les mois, vous pouvez voir, regarder les programmes du cinéma Les Cinq Comartins, et il y a un film le dimanche matin. Voilà, présenté par cette.
Le dimanche matin, on écoute
Pesce.
Cappuccino.
C'est après nous.
De 8 à 11 heures. Qu'est-ce que c'est que travail?
Après avoir écouté, on peut y aller. Ça commence à 11h30.
Très bien.
C'est la semaine italienne aussi. Là, on fête notamment. Toujours Pasolini, avec, il y aura un documentaire à la mairie du 13e de Anna Maria Tato qui s'appelle Marcello, je me souviens. Ce sera présenté par Jean Gilly à la mairie du 13e. Ce sera le 23 octobre à 19h30. Il y a une exposition de photos, également toutes sortes de photos de Marcello à la mairie du 13e. Et on va parler un petit peu de revue, puisque
Focus In
est paru, avec des articles sur les radios associatives, notamment.
Oui, alors, c'est Italoscopie et Hôpital, et je pense que dans un prochain numéro, il y aura
peut-être,
aussi Cappuccino.
Voilà. Mais on voit des photos quand même qui rappellent Cappuccino.
Des photos de Una Volta, magari.
Alors, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez au moins commander sur le site www.focus-in.info. Voilà, et en cliquant sur le bouton « Abonnati ». Il y a plusieurs possibilités de s'abonner, d'aider un peu le journal en donnant un peu plus que l'abonnement de base. En littérature, je vous parlais rapidement la dernière fois, donc le secret de la Fornarina. Je vous montre, Michel, la Fornarina.
Ah, jolie, hein, belle femme.
Une belle femme, et elle n'avait pas eu le temps de s'habiller quand
Raphaël
l'a peinte. Et donc voilà, donc c'est en gros...
Quand le facteur arrive, des fois on est comme ça, ça arrive.
Ce serait en gros la Joconde de Raphaël. Mais donc, elle serait sa maîtresse, jusqu'à présent on pensait que c'était sa maîtresse. Mais en fait, si vous lisez ce livre d'Amélie Ferrigno, vous saurez qui était réellement... Cette Fornarina, la Fornarina, c'est la petite du fornaio, du boulanger.
Juste un truc, parce que là, tu me permets de rebondir là-dessus, c'est que je trouve que ça commence à être complètement hallucinant. Dans notre société, on remet en question les tableaux où on voit des femmes nues, des époques de la Renaissance, etc. Et il y a des musées qui les cachent. Enfin, mais c'est incroyable, quoi. Je veux dire, mais où on va, quoi. C'est
même
vraiment,
le David de Michel-Ange qui avait été présenté dans une école aux États-Unis. Je sais pas si on a presque pas viré l'institut.
C'est complètement fou, quoi. Oui, surtout à l'époque, quand on sait quand il faisait ses peintures, comment la société était un peu coincée. Du coup, alors nous, on est une société libérale, etc. Et on peut même plus voir une femme nue ou un homme nu. C'est un truc de fou. Bon, allez.
Et dernière chose, donc pour Pasolini, mais puisque on recevra donc lors de notre prochain ciné-club, pas le prochain, mais celui de décembre, le 12 décembre, Stefano Palombari qui a traduit cet ouvrage donc de Roberto Carnero qui s'appelle Morir et perdre les idées, qui raconte en gros la vie de Pasolini.
Oui, donc, ça sera le 14 décembre.
Je crois que c'est le 12.
Peut-être le 14, c'est ce mois-ci, voilà, enfin, le mois de novembre, et le 12 décembre, c'est un vendredi, il y aura donc Stefano Palombari qui viendra aussi parler un peu de son association, parce qu'il a, il a énormément d'informations à nous dire aussi sur l'Italie.
Et de ce livre qu'il a traduit avec Michel Millet.
Voilà. Alors venez nombreux, mais pas trop, hein, parce qu'après on est quoi
On restera de debout, on regardera le film debout.
Tant pis, le film debout. Allez, un peu de musique en attendant Alberto. Tiens, ça va lui faire plaisir. C'est Mina qui nous chante La Città Vuota.
Strade piene, la folla intorno a me mi parla e ride e nulla sa di te.
Informations. La librairie propose une rencontre ce vendredi 24 octobre à 19h pour la présentation du livre L'Ultima Falsità de Diego Marani en compagnie de Manuel Corigliano. La librairie se trouve au 89 rue du Faubourg Poissonnière, métro Poissonnière. Toi, tu connais bien la librairie.
C'est à deux minutes à peine de la station de métro.
Voilà.
Très pratique.
Donc, on vous donne une information par rapport à quelque chose qui va se passer. Mais en fait, toutes les semaines, il y a des informations. Il y a la Tour de Babel et puis la librairie qui propose justement des rencontres avec des écrivains. Donc, c'est sympa. Et puis, on rappelle aussi que le PA Service de Stefano Cavacciuti propose de vous calculer l'IMU. L'IMO, c'est la fameuse taxe foncière en France. Hein. Donc, lui, il s'occupe de tout ça. Et on le remercie. Et donc, vous pouvez le contacter au 01 43 72 68 98. On rappelle que le PA Service se trouve dans les locaux de l'ACLE qui est au 28 rue Claude Tillier. Métro Reuilly-Ditro, ligne 1, c'est dans le 12e arrondissement. On rappelle que Stefano Cavacciuti, lui, s'occupe de tous ces problèmes que vous avez éventuellement avec l'Italie et les taxations, etc. Comment faire pour payer des factures et tout. des trucs un peu casse-bonbons, quoi, en fait. Ils s'en occupent, on le rappelle, le téléphone 01 43 72 68 98. Et puis, l'association Les Calabrais, on le dit, mais c'est vrai qu'il reste que peu de place, donc il faut vous précipiter nella nave, non ? Per andare, dove ? Alors, départ de Marseille, Gênes, Naples, Palerme, La Goulette, Barcelone et Marseille. Donc, si vous êtes intéressé, c'est l'association des Calabrais qui organise ce voyage. Vous téléphonez au 06 60 84 77 34. 06 60 84 77 34. Si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes ces choses-là, eh bien, vous rappelez au 01 40 24 29 22. Perché mi riguardo così oggi? Perché ha vinto il Torino, Renatino?
Torino, vedo un po' così. M'ha dato due giorni in più da vivere.
Ecco, tutto contento perché hanno vinto. Bravo, bravo al Torino, bravo, bravo. Allez, une chanson et après Alberto sera là pour nous parler de la situation politique en France. Et là, c'est donc un succès de 2024 comme à cause. Cuoricine, vous allez voir, vous connaissez, c'est sûr.
Oggi mi sento una pozzanghera se l'ansia mi afferra. Con lo sguardo verso il cielo, ma il morale per terra. Se mi trascuri impazzisco, come mai ho reso ci sta male.
Male, male, male.
Vorrei svagarmi, ma oggi una canzone dura come un temporale.
Solo
cuoricini, cuoricini, pensavi solo ai cuoricini, cuoricini, stramaledetti cuoricini, cuoricini che mi tolgono il gusto di sbagliare tutto. Poi mi uccidi, quegli occhi sono due fucili che sparano sui cuoricini, cuoricini, persino sotto la senza cuoricini, cuoricini per l'autostima, cuoricini, cuoricini che medicina, cuoricini, cuoricini ma che tolgono il gusto di sbagliare.
Et nous sommes contents puisque nous sommes avec Alberto Toscano qui est là avec nous dans les nouveaux studios d'Aligre FM. Comment est-ce?
Buongiorno, un bellissimo posto, siete sistemati bene, complimenti per i vostri successi.
Alors, en fait, Alberto, il nous suit depuis des années. Il était rue de Montreuil. Après, il a été dans le 13e. Ouais, maintenant, ouais, il est dans le 5e.
Je fais toutes les pérégrinations. Voilà. Je suis à Paris depuis 40 ans. Donc je fais les pérégrinations de Radio Ligre et évidemment del Cappuccino. Alors, mais, j'ai pas eu un cappuccino quand même.
Et ce qui est rigolo, c'est que en Île-de-France, il n'y a pas une radio que tu ne connais pas, qui ne t'ont pas invité. Tu les connais tous.
Il y en a quelques-unes qui n'aiment même pas trop, peut-être.
Ah, bon, après, c'est des choses politiques. Alors, merci d'être là avec nous. Et puis, je me suis dit, tiens, ça peut être sympa parce que quand j'ai commencé l'émission, j'ai dit, mais qu'est-ce que ce grand bordel, mais si vous me permettez de dire, une French. Et je me suis dit, pourquoi on n'inviterait pas Alberto pour qu'il nous parle justement, pour une fois, de la situation en France, même si peut-être elle s'est un petit peu stabilisée pour quelques semaines, quelques mois, on ne sait pas.
Quelques heures.
Alors, Alberto, ma qu'est-ce que ce grand bordel, je recommande.
Dis-nous
tout.
Le bordel a deux éléments qui le caractérisent. Et sont la situation financière et la dissolution politique de l'Assemblée nationale de l'année dernière. Ces deux éléments se croisent entre eux et s'influencent de façon négative l'un l'autre. Le résultat est une spirale d'instabilité qui va durer au moins jusqu'aux prochaines élections présidentielles. Moi, je ne crois pas que l'instabilité en France puisse se dissoudre par miracle d'un jour à l'autre. En plus, la France est un pays laïque qui ne croit pas aux miracles. Mais même si elle y croyait, ce serait difficile à obtenir. Non, je crois que l'instabilité politique soit désormais partie des meubles, je le répète, jusqu'aux prochaines élections présidentielles. Et encore, on verra le résultat.
Donc, t'as aucune.
Je ne suis pas là pour.
Tu n'es absolument pas optimiste pour le prophétie, fait que ça va tenir que quelques semaines, quelques mois. Qu'est-ce qui pourrait, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, peut-être, faire tomber encore ce gouvernement?
Ces deux éléments des difficultés de la finance publique et de l'instabilité née avec la dissolution de l'année dernière vont persister forcément. Parce que aujourd'hui, on a une Assemblée nationale avec 11 groupes parlementaires. On n'a jamais vu ça pendant la Ve République. Et qui plus est, ces groupes parlementaires ne veulent pas arriver à un compromis. Même ceux qui pourraient le souhaiter ont du mal à arriver à un vrai compromis. On arrive à une non-censure. Ça, c'est le maximum du compromis. Et encore, cette non-censure des socialistes est assortie de toute une série de conditions qui sont difficiles à remplir. Donc, pour répondre à ta question, je crois que cette instabilité politique va se traduire tout de suite dans un débat parlementaire sur la loi de finances, sur le budget, qui sera, à mon sens, surréaliste, parce que, ayant renoncé à l'application du 49-3, comme certains partis de l'opposition le souhaitaient, opposition, aujourd'hui on ne sait pas qui est à l'opposition et qui est à la majorité, mais comme certains partis le souhaitaient, évidemment, le Premier ministre Sébastien Lecornu doit faire confiance au débat parlementaire. C'est-à-dire, on aura je ne sais pas combien, c'est des centaines, voire des milliers d'amendements. Et là, le débat parlementaire va durer jour et nuit. Et il y aura des votes qui vont se succéder l'un à l'autre dans un contexte de confusion totale, parfois avec des majorités sur chaque article à géométrie variable, sur chaque amendement à géométrie variable, jusqu'à une situation où forcément, on aura ou la démission de cette personne de très grande bonne volonté, qui mérite d'être appréciée, qui est Sébastien Lecornu, ou l'application d'une décision par rapport au budget à travers des ordonnances, c'est-à-dire avec une méthode qui fait imaginer à nouveau un système que certains vont considérer autoritaire comme, ou presque comme, le 49-3. Donc, on est dans une situation vraiment de confusion, et tout ça est parallèle à une situation de la finance publique très, très compliquée, mais si tu voudras, on en parlera plus tard.
Est-ce que c'est les socialistes qui ont la clé de ce gouvernement Lecornu ? On a vu que là, c'est passé à 18 voix près. Est-ce que est-ce qu'ils vont signer, comme tu dis, toutes les ordonnances par rapport à un budget qui est quand même sacrément salé ?
Là, on n'est pas encore aux ordonnances, on est à un débat parlementaire par rapport aux articles et aux futurs amendements qui n'ont pas encore été présentés, mais il y en aura sans doute à chaque article. Donc, on est un débat parlementaire compliqué. Les socialistes ont sans doute la clé de la non-censure. Pour avoir la clé d'une majorité, il faudrait qu'une majorité existe. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un compromis sur un article d'un budget ou un compromis sur un projet de loi hypothétique. On devrait avoir un compromis sur un programme de gouvernement, comme ça existe en Italie, comme ça existe en Allemagne, comme ça existe en Espagne, et où les majorités politiques sont basées sur un programme de gouvernement. Mais un programme de gouvernement, prenons l'Allemagne, les élections terminées, les différents partis qui ont une certaine homogénéité politique décident d'arriver à un compromis, mais ce compromis est un programme de gouvernement de 4 ans. Et un compromis de gouvernement d'une législature entière en Italie. Si on arrive, on souhaite ensuite en Italie, parfois on n'arrive pas à le faire, mais rester ensemble pour toute la législature, pour tous les 5 ans de la législature. Or, en France, si on arrive à un compromis aujourd'hui, c'est un compromis jusqu'après-demain, parce que de toute façon, et les élections présidentielles sont dans moins d'un an et demi, et de toute façon, dans la meilleure des hypothèses, le compromis peut durer jusqu'au début de la campagne électorale des présidentielles. Ensuite, tout va sauter. Donc, c'est un compromis maximum de la meilleure des hypothèses d'un an. Dans ces conditions, les partis regardent leur propre intérêt électoral à plus forte raison parce qu'au mois de mars, on aura les élections municipales qui, en France, tu me l'apprends, sont particulièrement importantes. Donc, les partis ne vont pas faire de grands sacrifices aujourd'hui pour arriver à un compromis. Ils n'ont pas l'intérêt de le faire. Et en politique, l'intérêt fait partie des meubles, fait partie de l'essentiel. Évidemment, les partis politiques diront que la dernière de leurs inquiétudes est leur propre intérêt. Mais, disons...
Alors, on va faire une pause musicale avec le regretté Jean-Marie Attesta qui nous chante Il valzer di un giorno.
Questa montagna si farà pianura, molto lontano da questo cielo, così vicino che lo puoi toccare, fino al punto esatto, fino al punto dove il fiume accarezza il mare. Ma chissà dove il fiume incontra il mare. così piccole e vicine saluterò. Fino a quando dalla pianura, fino a quando non potranno più sentire. E sarò lontano da questo cielo, ma così lontano da non poterci tornare. Molto vicino al punto esatto dove il fiume accarezza il mare. Molto vicino al punto, molto vicino a dove il fiume incontra il mare. Ma chissà dove il fiume incontra il mare.
Nous sommes avec Alberto Toscano. Alors, on discute vraiment hors antenne parce qu'on se dit, mais est-ce que ce gouvernement va tenir ou pas? Et en fait, tu disais que peut-être, allez, fin novembre, avant la trêve des confiseurs, il est possible que le gouvernement tombe.
Il y a quand même une différence entre une discussion hors antenne et une discussion hors antenne, parce que hors antenne, on peut jouer à la prévision. Hein. Là, vraiment, on ne peut pas faire des prévisions sérieuses et un peu...
Disons que c'est quand même un peu mal engagé, quoi.
C'est mal engagé. Non, la chose à laquelle je ne crois pas est à la convergence facile sur le budget. Et effectivement, alors disons ce qu'on disait Rantet, alors jusqu'au bout. Et il est difficile que ce gouvernement arrive, comme on dit en italien, à mangiare il panettone. Il est vraiment difficile qu'il arrive à Noël.
Panettone, voilà. C'est oui, c'est janvier.
Il est vraiment difficile. Non, Noël.
Noël.
Panettone, c'est Noël.
La Befana.
Dont il y a toutes les chances que dans une atmosphère compliquée, parce que. Et là, il y a le discours parallèle et le discours de la finance publique que parfois on sous-estime, tandis que c'est un élément fondamental du débat politique.
Oui, mais alors justement, et la bourse n'a pas trop dévissé depuis quelques semaines
la bourse,
avec tous ces problèmes politiques, alors qu'on s'attendait à un crack pour l'instant.
Non,
elle est toujours à 8 000
points.
Il n'y
a pas de raison d'avoir un crack parce que malgré tout, les entreprises françaises sont saines et leur budget et même leurs profits sont tout à fait considérables, surtout dans certains secteurs qui sont la force des entreprises, et en particulier de l'industrie française, et qui sont le secteur militaire aérospatial, l'ensemble militaire aérospatial, l'ensemble du luxe et l'ensemble du secteur agroalimentaire. Alors là, la France reste très performante. Et si on rajoute le tourisme, il y a, c'est-à-dire ceux qui font des prévisions catastrophistes sur l'économie française, ils se trompent. L'économie française est une économie solide. Le niveau du chômage est à un niveau bas aujourd'hui. Et donc, il y a tous les éléments pour parier sur l'économie française. Le problème est la finance publique. La finance publique paye le prix de l'impossibilité de réformer un modèle social qui a toujours été avancé et parfois formidable, mais qui doit être financé. Et qui ne peut pas être financé s'il n'y a pas la capacité de faire des économies quelque part. La chose extraordinaire de la France actuelle est que l'opinion publique n'accepte pas des économies nulle part. Si on pense à ce qui s'est passé en Italie lors de la crise, qui était une crise terrible, assortie d'une situation d'ordre public dramatique, les brigades rouges, tout ce qu'il y avait, la grande crise de l'Italie de la fin des années 70. Un gouvernement, qui était le gouvernement Andreotti, on peut dire tout ce qu'on veut de Giulio Andreotti, à l'époque c'était le gouvernement, le chef, le président du conseil d'un gouvernement qui bénéficiait d'un soutien extérieur, justement, sous la forme de non-censure, mais non-censure structurelle, décidée sur la base d'un programme du Parti communiste italien, qui était, comme on sait, le plus grand parti communiste de l'Occident, et qui avait une capacité de pragmatisme, de respect de l'international. Or, ce gouvernement a fait, par exemple, a pris la décision de renoncer à plusieurs jours de fête par an, de fête nationale, y compris la fête du 4 novembre. Hein. Le 4 novembre, c'était le 11 novembre français, selon la fête de la victoire de la Première Guerre mondiale. Et y compris des fêtes Pentecôte, par exemple. Lundi de Pentecôte est faite dans la laïque France et n'est pas faite dans la catholique Italie. Donc, et l'opinion publique a accepté, le Parti communiste a accepté, avec la démocratie chrétienne. Or, quand Bayrou a parlé de l'hypothèse de renoncer à un ou deux jours de vacances par an, il y a eu un début de révolution française.
Or, mais est-ce que c'est parce que aussi on demandait toujours à peu près à la même catégorie, mais on voulait pas trop non plus taxer, on va parler de ça aussi, hein, des super riches. Hein,
non, mais c'est ce que je disais. Il est impossible de réformer quoi que ce soit parce qu'il y a toujours des objections qui ont toujours une solidité de ces objections. Je ne dis pas que ceux qui refusent de logique de vrai compromis peuvent renoncer à quelque chose et pour sauvegarder l'État-providence à la française qui est, je le répète, formidable. Et il y a toujours des objections. Et ce qui manque est une politique capable de faire la synthèse des différents intérêts sociaux pour produire une loi qui réforme quelque chose pour sauver l'essentiel. Ça n'existe pas. Et ça n'existe pas parce que la politique n'a pas de majorité, parce que la politique, c'est l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale est divisée en 11 groupes parlementaires, chacun desquels regarde les intérêts légitimes de l'avenir de sa propre force politique, et a du mal à renoncer à quelque chose au nom d'un intérêt national, parce que la politique française est à court terme aujourd'hui. Et on peut renoncer à quelque chose, comme je disais tout à l'heure, seulement si on se situe dans les moyens long terme. Et aujourd'hui, tout est à court terme. Tout est à un mois, tout est à 6 mois, grand maximum à 1 an et demi jusqu'au présidentiel. Et dans ce contexte, il n'y a pas les conditions pour arriver à des vrais compromis.
Alors, une dernière question avec une pause musicale. On se demandait, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui se demandent, mais pourquoi le président de la République ne démissionne pas? On a l'impression que s'il démissionne, ça va être le chaos. On a l'impression que c'est un seul homme qui tient toute la France. Et ça paraît un peu même de l'extérieur, de l'Italie. On ne comprend pas pourquoi on ne peut pas effectivement avoir un autre président de la République qui, lui, puisse résoudre un peu le problème. Pourquoi ?
Parce que c'est des institutions de la Ve République. Alors, pendant 70 ans ou presque, on a bénéficié des aspects favorables, positifs de ces institutions en termes de facilité de gouverner, de gérer le pays, de faire de programmer, par exemple, dans le secteur de l'énergie, grâce à un pays centralisé avec des institutions solides et gouverné de façon très forte et parfois autoritaire, mais très solide, avec une capacité de regarder loin, exactement la même capacité qui fait défaut aujourd'hui. Ces institutions ont garanti la capacité de regarder loin dans le secteur de l'énergie,
le secteur... Puisque là, rien ne bouge depuis pratiquement 2 ans. Donc, à cause de toutes ces crises successives.
Oui, mais c'est les mêmes institutions qui aujourd'hui garantissent à un pouvoir axé sur l'Élysée, donc sur le rôle du président de la République, qui a été autrefois un point positif des institutions axées sur ce rôle, aujourd'hui sont un point de fragilité. Parce que si l'Élysée est décrédibilisé, si le président de la République a un niveau de popularité à 14% dans l'opinion publique, s'il ne peut pas faire confiance à l'Assemblée nationale, une caractéristique de la Ve République, et François Mitterrand l'a bien montré, est que le Parlement pouvait ou être fidèle, le Parlement, l'Assemblée nationale, ou être fidèle au président de la République, donc être un instrument de la politique du président de la République, dont François Mitterrand prend le pouvoir en 1981 et immédiatement il dissout l'Assemblée nationale pour avoir une Assemblée nationale fidèle. Il reprend le pouvoir en 1988 et immédiatement dissout l'Assemblée nationale. Sinon, l'alternative, et on l'a toujours vu à l'époque de François Mitterrand, on l'a revu à l'époque de Jacques Chirac, est la cohabitation. Donc à ce point-là, l'Assemblée nationale a une majorité de couleurs politiques différentes par rapport au président de la République, mais elle a quand même une majorité. Donc il y a une cohabitation entre deux pouvoirs.
Cas aujourd'hui.
Aujourd'hui, on n'a ni un cas de figure ni l'autre. Aujourd'hui, on a un président de la République qui veut tout diriger et une Assemblée nationale qui est uno spezzatino, pour parler de la gastronomie. C'est tellement divisé qu'elle n'arrive à rien exprimer en termes de majorité politique. Et même ceux qui existaient après la décision qui a été funeste du président de la République Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale à l'été 2024, même ceux qui pouvaient rassembler une majorité, par exemple la coalition macroniste au centre et l'union de gauche du Nouveau Front Populaire, aujourd'hui, s'est divisé à son propre intérieur. Horizon et le mouvement des fidèles d'Édouard Philippe arrivent même, qui étaient des macronistes purs et durs, arrivent même à proposer à Emmanuel Macron de démissionner. Et à gauche, la polémique entre socialistes et la France insoumise est en train d'enfler jour après jour. Donc, on est dans un contexte de morcellement où on regarde, je le répète, aux prochaines échéances électorales qui sont l'étoile polaire, la véritable étoile polaire de la politique française, tandis que la véritable étoile polaire devrait être la façon d'aborder, devrait être à mon sens, moi, j'efface l'expression « devrait être ». Tandis qu'à mon humble opinion, il serait plus important que la véritable étoile polaire de la politique française soit la gestion de la situation de la finance publique et la sauvegarde de l'état social et de l'état providence à la française, du welfare à la française, qui est vraiment un patrimoine hérité du passé et un patrimoine qui mérite d'être sauvegardé.
Alors Marco Mengoni sera en concert le 3 décembre, je ne sais pas s'il parlera de politique dans son concert, ça m'étonnerait, à la salle Pleyel et nous chante « Due vite ».
Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè col limone contro l'hangover sembri una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale. E meno male se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli, lo sai. Qui non arriva la musica e tu non dormi. E dove sarai, dove vai?
dormi, dormi mai, che giri fanno due vite. Siamo i soli svegli in tutto l'universo, a gridare un po' di rabbia sopra un tetto, che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più i film, i fiori nella tua camera, la mia maglia metallica. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra, persi tra le persone con te parole senza mai una risposta, e ci siamo fottuti ancora una notte fuori al locale, e meno male se questa è l'ultima canzone e poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbaglio. Se questa è l'ultima canzone, sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica, tanto lo so che tu non dormi, 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 dormi mai, che giri fanno due vite.
Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
Alors oui, on voit que c'est compliqué la situation en France, mais alors, tiens, allez, il nous reste peu de temps, donc on a plein de choses à dire, mais est-ce que tu pourrais nous dire, allez, en deux minutes, comment va l'Italie? Parce que les gens, ils sont intéressés aussi. Tout le monde dit la Meloni depuis trois ans, c'est extraordinaire.
Si, ça me surprend un peu. Hein. Cette quantité, série de questions qu'en France on pose aux Italiens, comme si la Meloni avait fait un miracle. Or, la Meloni est restée au pouvoir trois ans.
Oui, mais pour l'Italie, c'est extraordinaire.
Ce soit un miracle. Mais disons, c'est un gouvernement qui, effectivement, sur le plan social et économique, donne raison à certains critiques de l'opposition dans le sens que l'Italie vit encore dans une situation d'austérité. Les salaires ont peu augmenté, les frais pour le système social, sanitaire, pour la santé ont été contrôlés d'une façon vraiment, vraiment draconienne. Et le système de retraite est un système de retraite dur en Italie. Les deux réformes de retraite, mais là je dois préciser que ces deux réformes, celle de Lamberto Dini dans les années 90 et surtout celle de Mario Monti de 2011, ont été réalisées par des gouvernements technocratiques soutenus par la gauche, hein, qui bénéficiaient du soutien de la gauche. Or, ces deux réformes de retraite font en sorte que l'Italie, en Italie aujourd'hui, on prend sa retraite à 67 ans, l'âge de la retraite d'ancienneté, l'âge de la retraite des vecchiaia, est 67 ans, et quand on dit aux Italiens qu'en France, on refuse d'arriver à 64, les Italiens disent « Oh là 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 !» Donc, ce gouvernement a appliqué les choix stratégiques de la réforme Monti de 2011 avec un minimum de flexibilité pour que ne soit pas trop devienne
Oui, il y a tout un système de
brutalité
calcul,
de certains choix le sang soit limité. Parce que c'est des choix d'une certaine brutalité. Or, suite à une intervention dans un sens modérateur, en 2027, l'âge de la retraite en Italie sera 67 ans et un mois, et en 2028, 67 ans et trois mois. Et l'âge de la retraite sur la base des années de contribution, qui aujourd'hui est 43 ans d'annuité de contribution, sera de 43 ans et un mois en 27, 43 ans et trois mois en 28 pour les hommes et 42 ans et trois mois pour les femmes. Or, c'est des conditions d'un système de retraite dur. Hein, ça, il faut le dire. De l'autre côté, ayant réalisé la performance de rester trois ans au pouvoir, quand même, Giorgia Meloni, il faut lui donner acte, a garanti une certaine stabilité au pays. Et en Italie, aujourd'hui, il faut aussi le dire, le chômage est au niveau assez bas, le plus bas des dernières décennies. Voilà.
Alors, on laisse l'Italie de côté. Encore que, il y avait une question un peu rigolote. Est-ce que l'Italie va se qualifier pour la Coupe du Monde ? Alberto, toi, tu connais un peu toutes ces choses-là.
Si, je pense que oui, mais oui bon. Elle va se qualifier dans la douleur, dans des conditions qui ne respectent pas la dignité du passé, des traditions du football italien.
Alors, deux minutes pour parler du prix donc, du cercle Leonardo da Vinci le 5 décembre. Tu seras là.
Je serai là, je parle des deux prix fruits décidés par les deux jurys desquels je fais partie, dont le prix pour le roman.
Oui, il y a un nouveau prix que tu as décidé sur des livres qui sont traduits en français, je crois, des livres italiens traduits en français.
Non, c'est l'inverse.
C'est l'inverse.
Donc, le premier prix est le roman français qui fait des références à l'Italie. Et la gagnante est Agnès Martin-Lugrand grâce à son roman Les Renaissances, publié par l'éditeur Michel Lafon. C'est un roman français, écrit en langue originale française, avec des références à l'Italie. C'est le prix Machiavelli. Qui sera décerné le 5 décembre à l'Assemblée nationale avec d'autres prix du cercle Léonard de Vinci, qui est une organisation extrêmement active.
Donc tu fais partie de Albert.
Laisse-moi dire quand même l'autre.
Tu as une
30 secondes. L'autre prix, le essai français traduit en italien. La gagnante est Madame Sylvie Goulard avec un livre sur l'Europe. Le titre italien est Grande da morire. C'est un essai français traduit en langue italienne.
Bon, alors je te dis au revoir, mais on se revoit très très vite.
Quand de vous.
Puisque tu vas nous reparler de politique d'ici, allez, deux, trois mois.
Quand de vous. Je sais. Sono sempre, toutes les volte che mi chiami.
Tu vas nous reparler. Si, c'est vrai, vraiment.
Sur le poste.
Tu sei vraiment un grande.
Tanti auguri a tutti gli amici. Bonne journée, bon dimanche, bonne semaine. Et espérons pour l'avenir.
Auguri, Cappuccino. 30 anni.
Merci à toi, Alberto Toscano. Non, c'est vrai, c'est fini déjà.
C'est fini.
Ah, c'était sympa avec Albert.
Ouais. Où est parti.
T'as vu, il nous parle de politique française, italienne, tout ça. On salue les responsables de l'ACLE qui sont là. Et puis, on salue tous les auditeurs. On leur souhaite un bon dimanche.
Bon
on espère
dimanche,
que la Juve va gagner.
Bonne semaine, j'espère que la Juve va gagner quand même.
Si, voilà. Là, juste, j'ai fait une photo avec la charpe de la Juve pour le journal du Juventus Club Paris. Enfin, Essonne. Voilà.
C'est très bien, c'est très bien. Michel.
Bon, en tous les cas, là, on est sérieux maintenant. On se retrouve quand et à quelle heure?
Ah,
dimanche prochain, stessa ora, stessa frequenza. On remercie Enrico Maestro Giovanni s'il est là à 7h30 comme d'habitude.
Ah bah,
merci Enrico, grâce à toi. Hein.
Voilà, on remercie tous les auditeurs. Vous pouvez appeler encore un petit peu au 01 40 24 29 29 in italiano.
01 40 24 29 29.
Baci a tutti!
Ciao, ciao, ciao!
Ciao.